À Lubumbashi sur 95,8.
Grattage des murs, assainissement des lieux, curage des fosses septiques, remplacement des vieilles fenêtres, portes, etc., etc. Tel est le gros de travail qui se fait depuis quelques jours au campus de Lubumbashi. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Prince Kaumba, affirme que la réhabilitation concerne trois bâtiments des homes des étudiants. Il s'agit du home 10, 2 et les hommes 6. Alors, nous allons retrouver notre confrère Colin Djuma Moussompo, qui est déjà en ligne et qui va nous faire le point à ce sujet. Bonjour Colin.
Bonjour Gérard Lungembo, bonjour fidèles auditeurs de Radio Capi.
Alors Colin, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur, disons, les entreprises qui mènent ces travaux?
Oui, selon le recteur de l'université de Lubumbashi, ce sont trois entreprises de construction de la place qui sont déjà à pied d'œuvre. Il s'agit de Safikas qui s'occupe du Home 10, Malta Forest pour le Home 2 et BM Trading pour le Home 6. Il faut aussi préciser que ces travaux sont financés par la Banque mondiale en passant par le canal du BCECO.
Est-ce pour la première fois que l'université de Lubumbashi reçoive des fonds pour des travaux de réhabilitation?
Hier, pour la petite histoire, l'université de Lubumbashi n'est pas à sa première expérience. En 2004, la MONUC, dans son projet à impact rapide, avait financé la réhabilitation du Home 10. Les travaux étaient évalués à 14 000 $, mais ce budget était jugé insuffisant pour finaliser correctement les travaux. On écoute le professeur Prince Kaumba, recteur de l'université de Lubumbashi, qui nous précise sur cette question.
Il faut savoir que lorsque j'avais délogé les étudiants du Home 10, c'était à la suite d'une tornade, un peu comme dans le cas du Home 6. Il y avait eu une tornade. À la suite de cette tornade, nous avons démarré quelques travaux pour les protéger, la toiture, tout ça. Après quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des infiltrations au niveau de la toiture. Et c'est à la suite de cela qu'on décidera de déloger tous les étudiants parce qu'il y avait beaucoup de risques d'électrocution. Nous avions eu auprès de la MONUC dans le cadre du QIPS, Quick Impact Project, on avait disposé des montants de 14 900 $. Mais ce montant, comme vous pouvez vous en rendre compte, était destiné à certains travaux bien précis. Et ces travaux ont été totalement et convenablement exécutés. Mais ce n'est pas avec 14 900 $ que vous allez réhabiliter la totalité du Home 10. Vous aurez constaté que maintenant, sur le Home 10, on a engagé plus de 350 000 $.
350 000 $. Alors Colin, il est vrai que le montant loué à la réhabilitation du Home 10 l'année passée n'a pas du tout été suffisant. Alors quelle garantie les responsables de l'université ont pour achever ce nouveau travaux?
Oui, le professeur Prince Kaumba affirme que le montant alloué par la Banque mondiale pour ces travaux correspond équitablement au devis établi pour chaque homme. Voilà ce qui justifie sa confiance. On l'écoute.
Il n'y a aucun doute que ces travaux aboutiront. Nous avions disposé de peu de moyens, nous avions fait quelque chose. Maintenant que nous avons suffisamment de moyens, le tout sera fait convenablement et dans les délais.
Vous estimez combien de temps?
Les délais ont été fixés par le BCECO, ils n'excéderont pas 6 mois.
N'excéderont pas 6 mois. Alors pour, disons comme vous vous êtes rendu sur place au campus de Lubumbashi, Colin, pour voir l'état d'avancement de ces travaux, quels sont les avis des étudiants?
Pour certains que nous avons eu la chance de rencontrer sur place, Gérard Lungembo, les avis restent encore partagés. Certains disent être très pessimistes quant à l'aboutissement de ces travaux, tandis que d'autres avancent l'idée de voir une accélération dans le chef des entreprises. On écoute ces étudiants.
C'est bien la réhabilitation, nous sommes contentes, mais nous voulons que ça aille vite pour que nos amis rentrent, les internes, qu'elles puissent rentrer, parce qu'au moment où nous parlons, il y a celles qui n'ont pas de famille ici, qui sont en train de déambuler ça et là pour chercher où habiter. Nous voulons que ça aille vite et qu'elles rentrent. Bon, comme on voit, hein, ça part un peu vite. Présentement, là, il y a des gens de forest, il y a des entreprises là, qui viennent contrôler comment est-ce qu'on travaille.
Dans leurs travaux, vraiment, il n'y a pas du sérieux. Ils ont commencé premièrement avec le Home 10 l'année passée. Mais il s'est fait un petit temps comme ça. Et on a mis juste la chaux, quelques ampoules halogènes, quelques lampes halogènes. Et puis, un temps comme ça, on s'est rendu compte, premièrement, il n'y avait plus de lampes, d'ampoules. Il n'y avait plus. Or, les étudiants n'étaient pas encore entrés.
Voilà, alors il y a des problèmes. Mais par curiosité, les auditeurs aimeraient savoir, Paulin, actuellement qu'on est en train de réhabiliter les homes, les étudiants sont logés où? Parce que selon nos sources, et ils sont tous placés sous des tentes.
Oui, tout à fait. Vous avez raison de poser cette question. Pour les homes 10, les étudiants qui étaient là, c'était les jeunes garçons qui étaient là, mais ils sont éparpillés dans le campus. Tandis que pour les hommes 2 et 6, dernièrement, le professeur Kaumba avait délogé toutes les filles du homme 6. Actuellement, elles sont logées au lycée Twendeleye. C'est un internat de filles.
Voilà, ce sont des filles. Je craignais que ce soit qu'elles puissent être placées à la belle étoile, sinon ça serait un scandale. Alors, Colin, on va poursuivre. Dites-nous, pour certains que vous, comme vous l'avez dit, vous avez raconté beaucoup de gens. Est-ce que on peut dire que les travaux vont bon train?
Oui, les travaux vont bon train. Et pour mener à bien leurs travaux, chaque entreprise emploie à son sein 20 à 30 personnes, parmi lesquelles on retrouve les maçons, les plombiers, des électriciens et des menuisiers qui sont répartis en plusieurs groupes de travail. Voilà tout ce qui se passe sur le campus de l'Université de Lubumbashi, Gilles Longuembo.
Voilà, si vous permettez, Colin, on va s'arrêter là pour donner aussi dans quelques minutes la parole à notre invité qui nous vient de Besseco. C'est le chargé des travaux et il nous donnera des amples explications à ce sujet pour savoir combien ont été évalués les travaux et combien de temps ça prendra. Merci Colin Djouma pour nous avoir donné toutes ces informations et à la prochaine.
Oui, merci à toi aussi, Gère, et à plus tard.
Okapi, fréquence de la paix.
Nous avons déjà des réactions dans ces studios, des étudiants qui ont réagi et des personnes responsables aussi qui ont réagi, et qui ont également réagi. Alors vous, vous avez aussi l'espace des réactions. Faites-les nous parvenir au 081 070 20 50 ou si vous voulez, appelez-nous au 081 0890 63 94. Voilà.
Okapi. Un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
John Kembe, je précise que vous êtes chef d'antenne du BCECO. Vous êtes notre invité. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, John, qu'est-ce qui a motivé le BCECO à passer ces hommes de l'Inulu en réhabilitation?
C'est juste dans le cadre des programmes. Des programmes de projets prioritaires, hein, à impact physique et immédiat sur la population.
Alors, disons, est-ce qu'on peut évaluer, parce que nous avons suivi le recteur de l'UNILU, à la question de savoir si ces travaux coûtent combien, et il a dit simplement que c'est les montants que vous leur avez remis est suffisant. Est-ce que vous les confirmez?
Eh bien, le montant qui est aligné, c'est à peu près 1 500 $, hein, c'est pour tous les travaux.
500 ?
1 500 $.
1 500 $.
Ouais.
Alors, ouais. Avant, c'était 14 000 $. C'était juste pour réhabiliter le Home 10. Et aujourd'hui, le montant est multiplié presque par 100. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé cette multiplication?
Ouais, parce qu'il y a maintenant 3 hommes qui sont alignés pour la réhabilitation. Il y a le home 6, il y a le Home 10 et le Home 2. Alors, pour les hommes 6, le montant aligné, c'est 690 083 $. Et pour les hommes 10, c'est 419 050 $. Et pour les hommes 2, 335 853 $.
Alors, nous venons de... Oui, vas-y. Allez-y, pardon.
Oui, allez. Oui, allez-y, je
Oui, donc je disais, nous avons suivi les étudiants qui ont réagi. Et d'aucuns sont pessimistes ou sceptiques. Ils disent qu'ils ne croient pas disons, que les travaux aboutissent comme il faut.
Ouais, le DG du PCCO, même le recteur a parlé, il y a même les vice-gouverneurs qui ont intervenu dans les institutions pour leur dire que ce n'était pas une blague cette fois-ci. Hein. Comme le président de la République avait dit, fini la récréation, il n'y aura plus de récréation. Nous rentrons en classe maintenant. Et comme nous rentrons en classe, et nous sommes obligés de la fin de vie contre nous-mêmes. Pour arriver à la conclusion de ces travaux avant l'échéance. Donc, nous avons trois entreprises qui ont été sélectionnées pour ces travaux-là. Et ce sont trois entreprises ont été sermonnées pour terminer chacun le travail de réhabilitation, les travaux de réhabilitation à la date indiqué à la date de contenter de faire les travaux. Pour vous dire, il y a trois entreprises qui sont alignées. Il y a l'entreprise Marta Forest, il y a l'entreprise Ben Trading et Safricas.
Alors, alors, quelle est l'échéance des travaux? Ça a pendant fait quand?
Oui, bon, ok. Pour Marta Forest qui s'occupe de la réhabilitation des Homme 6, en principe, les travaux ont commencé depuis le 2 décembre. Et ils ont 10 jours au voir. Donc, ils doivent terminer les travaux de réhabilitation plus tard le 1er juillet 2007. Et pour Safricas, qui a commencé les travaux le 13 novembre, il a aussi 210 jours ouvrables pour terminer les travaux au plus tard le 12 juin 2007. Et quant à l'entreprise Ben Trading, qui a commencé les travaux le 4 décembre, il a 210 jours ouvrables aussi pour terminer les travaux au plus tard le 3 juillet 2007. Voilà.
Alors, 10 juin, 3 juillet, j'imagine que les travaux prendront fin avant la rentrée académique prochaine. Donc, les étudiants qui ont été, disons, déplacés, qu'on a dû évacuer des homes, ne pourront y retourner qu'en début de l'année académique prochaine.
Oui, bien sûr. Nous souhaitons un défi de balance.
Mais voilà. Alors, il y a des réactions, M. John Kembe, qui nous viennent de partout. Là, il y a Philippe Maseka à Kolwezi qui dit « Je félicite le démarrage des travaux d'entretien de l'UNILU, mais est-ce qu'il fallait attendre autant d'années pour la réfection des hommes par les BCECO au moment où nous savons que l'UNILU génère beaucoup de recettes ?» Ça, c'est pas directement adressé à vous. Vous l'avez dit, disons, l'appui, c'est autour de 1 500 000 dollars. Mais c'était pas question. Bon, là, on pourrait peut-être répondre à notre auditeur comme ça rapidement pour dire que le BCECO vient au moment où il trouve que l'UNILU est vraiment dans un état de délabrement. Alors là, c'est une question qui pouvait être adressée au recteur, mais malheureusement, le recteur est déjà passé. Il y a encore une autre réaction de Bill Maninga à Lumbashi, ancien Kasapar. Il dit pourquoi le recteur s'est intéressé seulement à réhabiliter les trois hommes? N'est-ce pas les autres apparaîtront plus sales par rapport aux autres? Est-ce que BCECO, à votre niveau, pourquoi n'avez-vous pas pensé à réhabiliter tous les hommes au lieu de prendre à partie?
Oui, ce sont des travaux qui vont se faire séquentiellement, hein, parce qu'en fait, on ne devait pas déplacer tous les étudiants et fermer l'université pour commencer des travaux. Je crois qu'on les va séquentiellement. On commence d'abord avec les trois hommes là. Et dès qu'on aura terminé, je crois qu'il y a des projets qui sont en vue pour, n'est-ce pas, rendre l'université vraiment un paradis pour les études.
Alors, il y a Blaise Kalaki à Kikwit qui salue cette initiative, mais selon lui, disons, cela ne doit pas s'arrêter à l'UNILU, ça c'est sa proposition. Cette initiative ne doit pas s'arrêter à l'UNILU seulement, car toutes nos universités ont ces problèmes. D'autres n'ont pas de home. Est-ce que vous y avez pensé, monsieur John?
Bon, nous sommes un programme du gouvernement. Nous sommes un programme du gouvernement. Je crois que le gouvernement, quand il a eu l'opportunité, il l'a fait. Donc, comme nous avons commencé, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un début. Nous avons commencé avec la réhabilitation de l'UNILU ici au Katanga. Pourquoi je ne pense pas que ça puisse se terminer là. Le gouvernement est d'accord avec tous les étudiants pour que tout ce monde, tous ces étudiants puissent s'étudier dans des conditions idéales. Je pense que ce n'est pas le dernier travail de les derniers travaux de réhabilitation qui se font. Je crois que ça va continuer. Donc nous pensons que l'université de Lubumbashi sera d'abord une vitrine, mais on va commencer avec les autres suivant les programmes du gouvernement.
Monsieur John, la réhabilitation c'est une bonne chose, mais l'entretien en est une autre. Est-ce que vous avez pensé réellement à son entretien? Est-ce que vous laisserez après la réhabilitation la responsabilité aux autorités académiques? Parce que nous avons vu le cas de l'UNIKIN.
C'est un problème de culture, vous savez, c'est un problème de culture. Je vous dis qu'à ce moment ici, au moment où je vous parle, les trois entreprises, ils ont tous à peu près réalisé, ils sont déjà à presque 15% des travaux préparatoires. Donc, ils vont de main forte pour essayer de terminer les travaux à temps. Et comme je disais, c'était un problème de culture. Parce que nous n'avons pas fait avec l'université. Nous avons fait avec d'autres programmes dans les centres de santé. Nous avons réhabilité les cliniques universitaires. Il y a des centres de santé que nous réhabilitons. Il y a des écoles. Nous, nous limitons, n'est-ce pas, aux travaux de réhabilitation. En ce qui concerne l'entretien, la maintenance, je crois que, comme je disais que c'est un problème de culture, nous devons, n'est-ce pas, nous, les étudiants, disons les étudiants doivent se prendre en charge eux aussi pour essayer un peu de pérenniser, n'est-ce pas, l'action que nous avons commencée, c'est-à-dire la réhabilitation.
Oui, alors.
Parce que doit être pris en charge par l'université, ça ne pose pas de problème.
Alors revenons encore à ces trois entreprises qui exécutent les travaux sur place à l'université. Est-ce que vous avez pensé à mettre sur pied une commission de suivi, une commission des contrôles pour, disons, afin de mener à bon port ces travaux?
Oui, d'abord, il y a un bureau d'études qui est sur le lieu, qui est en train de suivre au jour le jour, donc un suivi de proximité des travaux. OK?
Oui.
Et à tout moment, à chaque étape du travail, après quelques semaines, il y a le chargé de projet, le monsieur qui est en charge de ces projets au niveau de la direction générale de l'ESECO, qui intervient chaque fois pour un suivi de proximité aussi. Et nous aussi, si c'est place, nous allons pouvoir comment ça se fait. Donc, il y a un suivi de proximité vraiment qui se fait opportunément. Donc, il y a un bureau d'études, il y a le chercheur de l'ESECO au niveau des qui descend sur le lieu pour voir comment avancent les travaux.
Alors, jusque-là, les rapports qui vous sont parvenus font état d'une bonne avancée ou d'un bon avancement des travaux?
Oui, oui. C'est ce que je dis là. Ça fait place aujourd'hui à 5% des travaux préparatoires. Malta Forest est à 10% des travaux préparatoires. Et Ben Trading est déjà à 20% des travaux préparatoires. Donc, on peut dire qu'il y a certains travaux qui sont déjà faits. Par exemple, les grattages, les dépôts de la menuiserie, la fuite des caniveaux, il y a les réparations déjà des permis, les réparations même des fosses septiques. Et là, le finissage même des étanchéités. C'est-à-dire qu'il faut dire que, en fait, les travaux pour ces réhabilitations sont axés sur l'assainissement, la plomberie et l'équipement sanitaire, les rafraîchissements des peintures, la toiture, l'étanchéité, la menuiserie, la vitrerie, la maçonnerie, le béton, les revêtements et l'électricité. Et sans oublier l'assainissement du réseau des raccordements électriques et des blocs de rang.
Alors, les travaux déjà réalisés, comme vous venez de dire, ont pu consommer quelle part de pourcentage dans le montant alloué par la Banque mondiale, jusque-là?
Jusqu'à présent, je pense qu'au niveau des entreprises, nous passons pour une équipe, il y a la direction de finances qui passe on va porter pour faire un peu le bilan pour voir combien de dépenses ont été faites. Mais jusqu'à présent, je crois que nous ne sommes qu'au début. Je viens de vous dire que les travaux viennent de commencer il y a quelques jours, donc il y a quelques trois semaines. Et on ne va pas aller déjà commencer le contrat à ce niveau-là. Mais nous avons confiance aux entreprises que nous avons alignées. Nous pensons qu'ils sont en train de utiliser convenablement l'argent qui est mis à leur disposition.
Oui, parce qu'il y a des étudiants qui commencent déjà à s'inquiéter. Et là, nous avons la réaction d'Edo Kambale, étudiant à l'UPN Mbujimaï. Il dit, le recteur a affirmé avoir investi 300 000 dollars déjà, alors que le BCECO a financé à hauteur de 1 500 000 dollars. Alors, lui pose la question de savoir où est parti tout cet argent. Vous dites que vous êtes encore au début. C'est pourquoi j'ai parlé de suivi. Et heureusement, vous l'avez reconnu, vous faites des suivis de proximité. C'est, c'est une bonne chose. Et là, carrément, on met juste un projecteur. Les étudiants mettent juste un projecteur pour vous mettre déjà en tête, à savoir que qu'il n'y ait pas le manque à gagner. Pour qu'on n'arrive pas avant la fin du mois de juin prochain, qu'on dise qu'il n'y a plus d'argent.
Je vais vous dire ceci. Je crois que les DG, quand il a parlé, la masse étudiante qui n'était là, le DG a dit, même l'étudiant lui-même peut aller poser la question. Donc l'étudiant est impliqué dans ces travaux de réhabilitation. Il y a eu la transparence. Je crois que chacun qui était là, à partir du recteur jusqu'à l'étudiant, chacun peut aller poser la question au bureau d'études. Il n'y a même pas à se cacher quoi que ce soit. Le DG était très clair. Il a dit que l'étudiant, lui-même, l'étudiant doit aller, il doit connaître ce qui se passe. C'est ainsi qu'il n'a pas été, il n'est pas allé par quatre chemins en disant à la face de tout le monde le montant qui était alloué. Et pour chacun, quelle était la part de chaque entreprise, quelle était la part du BESECO pour la part que le BESECO avait mis à la disposition de chaque entreprise. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. L'étudiant qui est un peu lésé peut aller même poser la question aux entrepreneurs, ça ne pose pas de problème, c'est vraiment ouvert.
Alors, Mbonde, on va terminer par cette question, cette réaction qui nous vient de Arou. Mbonde Balongo Sougrous, chef de bureau contrôle fiscal à Arou, il dit ceci, l'État congolais ne devrait pas souligner avec sagacité la réflexion des hommes, mais il devrait parler plutôt de la construction des très nombreux hommes à l'INELU, c'est la solution idéale. Donc moi, je pourrais peut-être compléter pour dire, est-ce que vous serez tenté un jour de pouvoir, au lieu de réflexionner, disons l'enseignement supérieur universitaire a besoin de construction des universités. Est-ce que vous aurez de tels projets également?
Ou carrément, vous allez seulement attendre? Nous commençons d'abord par faire ce qu'il y a. On ne peut pas d'abord abandonner ce qui est sale pour commencer à faire autre chose, parce qu'en fin de compte, ça rime à rien. Nous commençons d'abord par réhabiliter ce qui est là, et au besoin, s'il y a des besoins qui se font sentir et que cela a été approuvé par le projet, par le gouvernement, je ne pense pas que s'il y a réellement un budget alloué pour ça, qu'on arrive à ne pas le faire. Nous commençons d'abord par ce qui est sur place, à revêtir ce qui est sur place avant de commencer une nouvelle construction. Parce que vous êtes avec moi, vous comprendrez avec moi qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui est très sale, et même un enfant qui est très sale ici, pour habiller ce qui n'existe pas. Donc nous commençons d'abord par ce qui est là, et à réhabiliter ce qui est sur place, au lieu de commencer la construction. S'il y a une construction qui sera en vue, suivant le besoin qui se fera sentir, je ne pense pas que le gouvernement puisse
Alors John Kembe, je ne dirais pas, on va vous tenir à l'œil, parce que vous nous avez promis que d'ici au 3 juillet, les travaux vont prendre fin. Nous serons là pour vérifier, Inch'Allah, pourvu que ça ne soit pas une promesse en l'air. Hein?
Non, ça, je vous l'assure.
Et surtout avec votre suivi des proximités.
Nous n'irons pas de même morte pour punir ceux qui n'auront pas terminé avant. En tout cas, il y a un suivi de proximité. Nous avons demandé à l'entreprise Martin Forest de terminer ses travaux le 1er juillet. Nous avons demandé à Benta Fafika de terminer les travaux le 12 juin. Et nous avons demandé aussi à Ben Tradienk de terminer les travaux le 3 juillet. Donc c'est une promesse ferme que nous donnons, que le DG a donnée. Pour la fin des travaux, parce qu'il y a urgence.
John Kembe.
Nous ne voulons pas que ça soit comme ça s'est fait autrefois. Non, nous avons donné notre parole, je crois que c'est une porte pour nous faire, que les travaux seront déjà, les hommes seront opérationnels à ces dates-là.
John Kembe, je rappelle que vous êtes chef d'antenne du BESECO. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, M.